Vive la Commune, le titre de la chanson écrite en 1871 par Eugène Châtelain à propos de la Commune de Paris s'affiche fièrement sur une large partie du mur du bâtiment B du campus Villejean. C'est ici qu'est abritée l'université Rennes 2, c'est ici qu'on apprend, qu'on réfléchit, qu'on passe des examens, et c'est ici qu'on lutte, c'est ici que l'on vote en Assemblée Générale. Et elles sont nombreuses, ces AG. L'actualité, c'est bien sûr la lutte contre le projet de loi travail porté par Myriam El Khomri, un mouvement précédé par de nombreux autres, de la contestation du contrat première embauche, notre invité à peine 18 ans y était déjà, aux manifestations contre la réforme licence master doctorat, en passant par la vive opposition au contrat d'insertion professionnelle. Rennes 2 s'est forgé une solide réputation de rebelle au fil des années. Rennes 2 la rouge, auquel s'ajoute le noir en fonction des porteurs de drapeaux. Rennes 2 où débutent les conflits sociaux, où ils grossissent et parfois même où ils se terminent. Alors comment expliquer cette renommée? Comment s'est-elle construite? Quelle place pour les syndicats et les partis politiques? Est-elle vraiment toujours d'actualité? Réponse tout de suite dans Chercheurs en ville.
Chercheurs en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et la Radio Université Bretagne Noire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Notre invité du jour est Hugo Melchior, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes doctorant en histoire à Rennes, à l'université Rennes 2, et vous êtes aussi un des leaders du mouvement contre le projet de loi travail. Je le disais en introduction, le CPE en 2006, vous avez connu. Autant de raisons qui nous ont poussé à vous inviter pour répondre aux questions de Xavier Daumontry. Bonjour Xavier.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Rédacteur en chef de Place Publique, dont l'ultime numéro est toujours en kiosque, on le rappelle, et Christian Lebar. Bonjour Christian.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Messieurs, c'est à vous.
Merci Renan. Bonjour Hugo Melchior. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il nous paraissait intéressant, effectivement, dans cette émission qui s'intitule Chercheurs en ville, de pouvoir avoir un regard de chercheur, ce qui est votre cas, sur ce que l'on observe déjà depuis maintenant plusieurs semaines à Rennes et dans d'autres villes en France, cette fameuse mobilisation contre la loi El Khomri, la loi travail. Mobilisation qui en rappelle d'autres, et Renan l'a évoqué à l'instant dans son lancement, qui nous ramène à, j'allais dire, aux grandes heures des mobilisations estudiantines rennaises autour de Rennes 2 la Rouge, comme on disait à une certaine époque. Il est tentant de comparer les mobilisations précédentes avec celles que nous vivons aujourd'hui, mais il y a peut-être là un danger d'aller un peu vite en besogne et d'établir des raccourcis qui ne seraient pas forcément de saison. Alors si vous êtes autour de cette table et derrière ce micro, Hugo Melchior, c'est pour nous dire ce que vous vivez aujourd'hui à double titre, puisque vous êtes à la fois un historien, vous êtes doctorant en histoire, vous êtes en quatrième année de thèse et vous êtes spécialisé sur les années, justement, les années de la contestation et de la mobilisation, 68-80, la période de l'extrême gauche et de sa constitution à travers de nombreux courants. Vous êtes aussi, et on l'a rappelé à l'instant, un des animateurs principaux de la mobilisation actuelle, et vous étiez également très jeune alors, encore plus jeune qu'aujourd'hui, à la pointe de la contestation en 2006 contre le CPE. Autant de bonnes raisons pour pouvoir analyser avec la rigueur du chercheur, mais aussi peut-être l'enthousiasme et la fièvre du militant, eh bien, ce que nous observons aujourd'hui. Alors, ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Rennes? Est-ce que c'est inédit par rapport à ce qu'on a connu auparavant?
Non, je dirais pas que c'est inédit. Ce qui est sûr, c'est que ça faisait 6 ans qu'il s'était rien passé, réellement, la dernière mobilisation.
On commençait à se demander s'il y aurait encore quelque chose à Rennes.
Tout à fait. Moi, j'ai connu ce que j'appelle les années rouges, la période 2006-2010, où il y a eu 4 mobilisations estudiantines, CPE, LRU, en automne 2007, masterisation LRU au printemps 2009, et les retraites.
On n'avait pas le temps de s'ennuyer, et surtout, on avait l'occasion d'apprendre.
Exactement.
La mobilisation.
Tout à fait. Donc, acquérir des savoir-faire, des savoir-être, des codes. Donc, effectivement, il y avait une familiarité à l'égard des mobilisations. Et là, on a eu des générations d'étudiants qui n'ont rien connu, ni au lycée, ni à l'université. Donc même l'idée d'Assemblée Générale, ça n'allait pas du tout de soi. Comment ça marche? Donc on ne part jamais de zéro. Daniel Bensaï disait qu'on ne part jamais de zéro, mais du milieu. Mais en tout cas, par rapport en tout cas aux années 2006-2010...
La conscientisation politique des étudiants, pour employer des mots savants, comme dirait mon ami Christian Lebarthe,
était à refaire à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que les étudiants et étudiantes n'avaient pas de conviction et de valeur, mais en tout cas, l'action collective, la lutte collective, le fait d'agir ensemble contre un gouvernement contre un projet de loi, c'était pas arrivé. Donc là, encore une fois, c'est la première fois depuis 2010 qu'on a des assemblées générales aussi importantes et qu'il y a une mobilisation, même si effectivement, comme on va le dire, il y a des différences importantes avec les mobilisations précédentes, il n'empêche qu'il y a une mobilisation en cours depuis maintenant près d'un mois et demi, et ça c'est inédit par rapport à la période restante.
Christian Labarthe de la MSHB.
Oui, tout de suite vous mettez l'accent sur quelque chose qui, d'un point de vue sociologique, à bien des égards, est un peu une énigme, c'est-à-dire ces mobilisations récurrentes à Rennes 2, mais selon une récurrence dont vous soulignez aussi les discontinuités. C'est-à-dire comment ça se passe, comment ça se reproduit d'une génération, enfin on est sur des générations courtes, hein, mais enfin, comment ça se reproduit d'une génération à l'autre, sachant que la sociologie du campus, la sociologie de l'université Rennes 2, s'est considérablement transformée depuis les années post-68, c'est-à-dire il y a massification de l'université, il y a dépolitisation de la jeunesse. J'avais travaillé avec Pierre Merle dans les années 90 sur les mobilisations étudiantes à l'époque, et on voyait déjà cette tension entre une minorité qui perdurait, qu'il était assez facile de situer, c'est-à-dire en fac d'histoire, principalement.
Vous êtes en train de faire le portrait de notre invité, là.
Ben, voilà, une minorité qui tenait en quelque sorte le fil de l'histoire, et puis un public dans des filières, moi j'étais à l'époque en AES, en psycho, même en lettres, beaucoup, beaucoup moins politisé, même assez étrangère à cette culture de la mobilisation. Donc, comment est-ce que on fait prendre, enfin comment on explique que la mayonnaise puisse reprendre, surtout, je n'avais pas été attentif à ça, mais vous avez raison de le souligner, après une période assez longue au fond de creux.
Après, de creux, ça explique aussi, le caractère inédit aussi, c'est ça, et je ne sais pas si on le dit suffisamment, c'est que c'est la première fois qu'un gouvernement de gauche est confronté à une mobilisation sociale qui ne vient pas de la droite. 84 pour l'école libre contre le projet de loi Savary, hein, un grand service public d'éducation unifiée, c'était la France des droites, hein, qui avait manifesté en 2013 contre le mariage, manif pour tous, contre le mariage pour tous, c'était une nouvelle fois la France maurassienne et la France des droites qui avait manifesté. Donc ça, c'est inédit ce qui se passe actuellement. Ce sont, et j'arrête pas de le répéter partout dans les médias, que ce sont des gens qui ont élu François Hollande le 6 mai 2012. En tout cas, qui était content que Sarkozy soit battu, qui aujourd'hui se mobilise. Et ça c'est inédit. Hein. Je veux dire, depuis 80, ni Mitterrand, ni Jospin, ni François Hollande
n'avaient dû faire face.
Exactement. À son propre camp.
Alors, quel sens il faut donner à cette interprétation selon laquelle, au fond, la loi travail serait plus la goutte d'eau qui a fait déborder le vase que la cause réelle, parce que. Enfin, ou la cause profonde, disons, parce que c'est vrai qu'une des caractéristiques de cette mobilisation, c'est qu'aussi on est face à un dispositif qui ne concerne pas principalement, en tout cas pas exclusivement, les jeunes, à la différence des dispositifs du CPE qui étaient vraiment des dispositifs pour le public,
exclusivement,
pour les jeunes et donc pour les étudiants. Oui. Donc, est-ce que c'est pas au fond un peu l'étincelle qui a mis feu au
feu ? Je suis d'accord avec vous. Moi, en 2013, j'avais essayé de mobiliser un peu tout seul sur mon campus contre l'ANI, l'accord national interprofessionnel, l'accord MEDEF-CFDT. J'avais mobilisé avec quelques camarades. On avait fait beaucoup de militantisme pendant janvier, février, mars. Ça n'avait rien donné. Donc là, on est en 2013. Là, on est en 2016. Ça fait 4 ans. Et là, le ras-le-bol, l'accumulation des frustrations, du ressentiment, donc je ne vais pas faire toute la litanie des renoncements, après évidemment tout dépend les points de vue, mais en tout cas, là j'ai senti avec cette loi que le gouvernement ouvrait la boîte de Pandore et que cette fois-ci, contrairement à 2013, beaucoup d'étudiants étaient disponibles pour se mobiliser. Alors après, notre objectif pour nous en tant que militants, c'était de présenter une offre politique suffisamment attractive, désirable, pour créer une demande sociale de mobilisation.
Vive la commune enfant, vive la commune. Oui, le drapeau rouge est bien le plus bel emblème de l'ouvrier citoyen, c'est pourquoi je l'aime.
J'aimerais bien qu'on décrypte un petit peu avec vous, Hugo Melchior, ce matin, la manière dont on peut comprendre l'enchaînement des faits. Parce que ça n'a pas été spontané, il y a eu forcément une conjonction de facteurs. Expliquez-nous comment ça s'est passé.
Par rapport à ça, il n'y a pas effectivement une mobilisation spontanée, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire. Les organisations syndicales et politiques, même si aujourd'hui, notamment à Rennes 2, même par rapport à 2006, elles sont beaucoup plus faibles.
On en reparlera tout à l'heure.
Elles sont beaucoup plus faibles, mais en tout cas, c'est des militants politiques, dont moi, qui ont été à l'initiative de cette mobilisation. l'action. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu des militants politiques, je ne pense pas que ça aurait pris comme ça spontanément. Il faut aussi être dessus.
Il faut un peu de métier quand même pour lancer
voilà,
ça. Hein.
Exactement, il faut des savoir-faire. Donc il faut des cadres militants. Il faut des cadres militants. Je ne sais pas si on parle d'avant-garde, mais en tout cas, il faut des cadres militants qui structurent et qui justement vont élaborer cette offre politique pour susciter une demande sociale de mobilisation. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y a une intersyndicale qui s'est constituée au début mars, premier tract, qui appelait une première assemblée générale, et ensuite, ça a pris tout de suite en fait. La première assemblée générale, elle était pleine.
Est-ce qu'on peut dire que finalement, on attendait que ça, et qu'il y avait
un désir
de mobilisation?
Je pense qu'il y avait une disponibilité de la part des étudiants. Ce qui est sûr, c'est que la première assemblée générale, contrairement justement à ce qui s'est passé en 2013 par rapport à l'ANI, où on était 50 seulement, dont beaucoup de militants, là l'amphi Renan, l'amphi B8, était plein à craquer. Donc à un moment donné, vous voyez, dès la première assemblée générale, on sent qu'il y a une demande en tout cas de la part des étudiants. Ça ne veut pas dire que la mobilisation est sûre, mais en tout cas, il y a une disponibilité, il y a un potentiel de résistance qu'on n'avait pas les années précédentes.
Et ça veut dire qu'il y a une accumulation d'exaspération. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les renoncements, mais de votre point de vue, quand même, ce serait intéressant de dire quels sont les deux, trois trucs qui vraiment ne passent pas auprès du public étudiant dans le...
Et de la jeunesse, c'est ça.
Alors, pourquoi est-ce que le terreau social est fertile? C'est la question. Alors, moi, encore une fois, au niveau de la jeunesse, bon, le chômage de masse, à ce niveau-là, clairement, la difficulté de s'insérer professionnellement. Pour, moi c'est mon cas, hein, petite bourgeoisie intellectuelle, la peur du déclassement. Pour les classes populaires et RN2, vous avez quand même 43% hein, des étudiants qui sont encore boursiers. Donc classe moyenne basse, classe populaire, la peur de ne pas pouvoir s'élever socialement. Donc la frustration.
Vivre moins bien que ses parents.
Ouais. Et même vivre autant, vous voyez, c'est pas une idée. Donc pas réussir à s'insérer. Donc frustration, ressentiment, peur de l'avenir. Et d'où notamment la peur de l'échec. Enfin, scolaire à l'université, d'où la fixation aussi par rapport aux examens, et même de fait la peur de se mobiliser aussi, au détriment de ses examens et de sa réussite à l'école. Donc chômage de masse, je dirais notamment le contexte régional Notre-Dame-des-Landes, ça a pu jouer aussi.
Il y a une proximité quand même, on en parlera
spatiale,
peut-être dans les mobilisations,
spatiale,
les capacités voilà.
Et pas mal de gens qui ont connu leur premier engagement par rapport à cette question-là, qui sont été sur la ZAD, qui ont des parents qui sont aussi, vous voyez, sensibles à cette question écologique.
Qui mettent l'autocollant sur leur voiture.
Ouais, exactement, donc ça pareil, c'est aussi un facteur de politisation. Je dirais, bon après, voilà, le gel du traitement des fonctionnaires, le SMIC qui n'a pas été augmenté, le contrôle faciès qui perdure, la mort de Rémi Fraisse, Caputofi, voilà, c'est un élément aussi de cristallisation, l'action des sans-papiers, le traité de stabilité budgétaire européen qui n'a pas été renégocié comme il aurait dû. Donc voilà, après, effectivement, je n'ai pas fait d'enquête. Hein, faudrait faire. Mao disait que si on ne fait pas d'enquête, on n'a pas le droit à la parole. C'est une chose qu'il avait.
Il faut toujours citer Mao, effectivement.
Voilà, il avait raison de ce point de vue-là, donc je n'ai pas fait d'enquête et je n'ai pas demandé effectivement aux étudiants qui étaient là à première âgée pourquoi ils étaient là. Mais effectivement, je pense qu'il y a une conjonction, en tout cas, de frustration, de ressentiment à l'égard
de ce gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas non plus, Hugo Melchior, ce sentiment diffus dans la jeunesse actuelle qu'il y a une forme d'autisme gouvernemental, que finalement, ils ne sont pas entendus, ils sont pas écoutés?
Moi, déjà, par principe, ça, c'est les sociologues, hein, je pense, et les politistes qui peuvent le dire. Moi, je ne parle pas de la jeunesse, déjà. Mmh. Moi, j'ai les jeunesses. La jeunesse,
elle est plurielle.
Elle est plurielle, elle est contradictoire à l'image de la société. Politiquement, elle est de gauche, extrême gauche, extrême droite. Donc, là, actuellement, c'est des gens qui ont le cœur à gauche, clairement.
C'est pas toutes les jeunesses hein, qui sont mobilisées.
Pas toutes les jeunesses, tout à fait. Non, c'est une fraction, numériquement minoritaire. Enfin, numériquement, il n'y a pas la moitié de la jeunesse lycéenne et surtout scolarisée. Et scolarisée qui se mobilise. La jeunesse qui travaille, la jeunesse qui est au chômage, c'est plus difficile pour elle. Aujourd'hui, la jeunesse scolarisée, pour moi, elle avait vraiment un rôle de détonateur et de lanceur du mouvement. C'est ce qu'elle est en train d'assumer, en tout cas, une partie d'entre elles.
Christian Lebarthe.
Oui, donc je crois assez à la thèse de la crainte du déclassement depuis quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors sur une dimension un petit peu plus, je dirais anthropologique là ou ethnographique, est-ce qu'il n'y a pas aussi pour cette génération-là le souhait de faire son mouvement comme les aînés ont fait?
Il y a un rite initiatique. On vient
est-ce
aussi
que
un
ça
peu
relève
à de
pas
pour ça
aussi
quand même
du rite initiatique.
Alors peut-être il y a dans la période des années rouges 2006-2010 peut-être, mais là, effectivement là par contre on a affaire et je le vois bien, même au niveau des militants politiques. Sont à la jeunesse communiste ou NPA, sont des gens qui n'ont aucune expérience des mouvements de masse. Enfin, moi, je suis le seul. Enfin, je vous le dis, c'est pas pour
le
me vanter.
Le dernier Mohican.
Je suis le seul à avoir connu des mouvements de masse à l'université. C'est pas pour me mettre en avant. C'est une réalité empirique. C'est un constat. Et donc, c'est pour ça que je pense avoir un rôle important et me mettre au service de cette mobilisation. Là, on a que des étudiants de première, deuxième, troisième année qui sont profanes, qui sont novices et qui connaissent un premier engagement et qui apprennent sur le tard.
Mais qui, venant à Rennes 2, savaient où ils venaient.
Mais je pense que l'image de Rennes 2 aujourd'hui dans les nouvelles générations n'est plus celle qu'elle était il y a 10 ans.
C'est ma question.
J'ai l'impression. J'ai l'impression parce que moi j'ai pu vivre effectivement ces dernières années. Moi j'ai vu une université où il y avait très peu de tracts.
Ça s'est normalisé quand même.
C'est normalisé.
Alors justement, moi j'ai sous les yeux là le très bon article qui a été publié dans le magazine M, le magazine du Monde, en date du samedi 16 avril, dans lequel vous êtes à plusieurs reprises interviewé avec d'autres acteurs de Rennes 2. Hein. L'article s'intitule Le nouveau militantisme étudiant, et il se focalise sur ce qui se passe à Rennes 2 pour essayer de comprendre justement les ressorts qui peuvent aussi avoir une résonance nationale. Et dans cet article, vous dites, je vous cite, « La fac n'apparaît plus comme l'espace premier de politisation des jeunes. Les associations semblent avoir pris le pas sur les partis et les syndicats. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Mais moi je constate, mais c'était déjà le cas aussi en 2006, c'est que les organisations politiques et syndicales de jeunesse se caractérisent par la petitesse de leur nombre. Enfin, clairement, je veux dire, et encore plus aujourd'hui, par rapport il y a 10 ans.
En termes d'adhérents, vous voulez
dire ? En termes de militants, en termes d'adhérents. Enfin, je veux dire, le champ politique et syndical à la fac, déjà qu'il n'était pas forcément très gros en 2006, là aujourd'hui, l'UNES n'existe plus. L'UNES n'existe plus à Rennes 2.
Oui, ils envoient l'article leur raconte un envoyé spécial parisien qui est un petit peu moqué d'ailleurs.
Voilà, qui est membre du bureau national, qui on a travaillé en très bonne entente, mais qui est extérieur à Rennes 2. Donc ça montre bien que l'UNEF aujourd'hui n'existe plus, quand on sait quand même l'important, c'est même en 2006 qu'avait l'UNEF. Solidaire étudiant, même par rapport à il y a 10 ans, ne pèse pas non plus grand chose. Il y a quelques militants qui sont encore là, mais c'est pas une vraie force de frappe. Le SLB, syndicat breton, pareil, quasiment inexistant.
Mais il y a l'armée de Dumbledore.
Il y a l'armée de Dumbledore, effectivement.
On va en parler
voilà,
de ça, quand
effectivement,
même.
Et la grande différence de ce point de vue-là.
On croyait que c'était un gag et finalement ça marche un peu.
Alors, au départ, si je peux juste expliquer un peu l'histoire.
J'allais vous le demander.
Mais Fabien Caillé, qui est un peu à la tête, l'initiateur de ça, pourra mieux vous en parler que moi. Bon, au départ, c'était ce qu'ils appellent dans le langage aujourd'hui un troll. Vous voyez ce que je veux dire, hein, une sorte de campagne un peu à la Coluche. Hein, ils voulaient s'inspirer de ça. Et ça a pris. Cette comédie politique a pris et a réussi. Est-ce que c'est la durée, est-ce que ça se pérennisait? Je ne pense pas.
Bah, les dernières élections, voilà. Ils sont arrivés deuxième quand même.
Ils sont arrivés deuxième, après dans le temps, il faudra voir est-ce que ce sera Perrin ou pas. Mais en tout cas, ils ont fait un coup politique, un coup de communication. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça révèle justement? Finalement, de quoi, qu'est-ce que ça révèle de l'état de politisation et de ce que souhaitent aujourd'hui les étudiants en tant qu'engagement et le rapport qu'ils ont aux organisations traditionnel aussi.
Mais Christian, vous en pensez quoi, vous, justement, de cette armée de Dumbledore?
Ça confirme un petit peu une chose qu'on sait par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un décalage de plus en plus manifeste entre les formes institutionnalisées, syndicats compris, de la politisation, et puis la logique qui est celle du mouvement. Voilà. Alors, les mouvements, ça marche. On trouve des gens pour s'impliquer dans des mouvements, pour s'associer à des dynamiques collectives.
Donc, temporairement,
ce qu'on appelle parfois le militantisme post-it, c'est-à-dire voilà, ou un peu à la carte, avec y compris des formes de mobilisation très fortes.
Hein,
j'allais dire jour et nuit faire référence à l'actualité. Oui. Et en même temps, c'est complètement déconnecté d'une autre forme plus classique qui est l'adhésion, l'appartenance à une institution. Et il me semble que la logique des mouvements étudiants, elle s'inscrit bien dans cette distinction.
Parce que par rapport à ça, je peux me permettre, même déjà en 2006, encore une fois, le champ syndical et politique n'était pas le même. Les organisations étaient certes petites, mais plus fortes. Et plus de cadres militants. Moi, celui d'étudiants, par exemple, on avait une génération qui avait connu 2002, les manifs anti-Le Pen, qui avait connu 2003 le mouvement anti-guerre, contre l'intervention en Irak, qui avait connu le LMD en 2003, qui avait connu 2005 la réforme Fillon. Voilà, qui avaient, eux, l'expérience des mouvements de masse, qui n'est pas le cas aujourd'hui, par rapport aux militants en 2016. Par contre, il y a eu la mobilisation exceptionnelle en 2006, et moi, je me rappelle très bien, ça m'avait marqué. J'avais vu des centaines d'étudiants et étudiantes se mobiliser pendant ce mouvement de manière intense, pendant plusieurs semaines, qui a fait grève pendant 10 semaines, hein, à Rennes 2. Et ensuite, on avait organisé des réunions d'information.
Et il n'y avait plus personne.
Il n'y a personne. Ouais. Et on n'a pas réussi, vous voyez, à capitaliser sur l'engagement.
Ce qui confirme un peu la thèse du rituel aussi.
Vraiment.
C'est-à-dire
du passage initié. Et évidemment, les étudiants s'est renforcé. On a dû tripler le nombre d'adhérents, mais on est passé de 10 à 30. On n'est pas passé de 10 à 300, etc. Et donc finalement, on est resté un petit groupuscule à l'échelle de l'université de Rennes 2. Et l'immense majorité de ceux et celles qui sont engagés pendant des semaines n'ont pas traduit ensuite cet engagement temporaire par un engagement pérenne dans le cadre d'une organisation syndicale et politique d'extrême gauche ou même de la gauche plutôt traditionnelle et modérée.
Bousculade à l'entrée du hall B de l'université de Rennes 2. Les étudiants qui souhaitent suivre les cours ont répondu à l'invitation du président Marc Gontard d'investir les lieux pour reprendre l'université au bloqueur. Le personnel est également présent et cette fois, pas question de discuter.
Il n'y a rien à négocier, il y a simplement à progressivement se réapproprier les bâtiments dans le moindre violence possible. Mais je crois qu'il faut faire front, voilà. Il ne faut pas laisser l'université à 50 personnes qui veulent la bloquer.
Alors, on parle depuis le début de cette émission de la mobilisation sur le campus de Rennes 2. Il y a un autre campus à Rennes, c'est Rennes 1. Il y aurait même peut-être pu n'en avoir qu'un si la fusion entre Rennes 2 et Rennes 1 avait abouti l'année dernière. Comment se fait-il, de votre point de vue, Hugo Melchior, que finalement cette typologie, cette dichotomie entre les deux universités rennaises soit à ce point forte que la mobilisation prenne sur l'une et pas sur l'autre ?
Bon, de toute façon, on parle de Rennes 2, mais on peut trouver d'autres universités à l'échelle nationale. Vous avez tous le Mirail, vous avez Montpellier, bon, c'est les facs de sciences humaines et sociales. Bon, je pense qu'effectivement,
c'est la discipline.
La discipline, hein, ça joue, sans vouloir caricaturer, évidemment. On a des gens de l'IEP, l'IEP encore des sciences humaines et sociales, mais même Beaulieu s'était mobilisé un petit peu, hein, en 2006. Ils avaient fait grève pendant également plusieurs semaines, donc voilà. Mais en tout cas, c'est vrai, effectivement. Il y a une vraie dichotomie, un antagonisme en tout cas. Il y a une vraie différence entre Rennes 1 et Rennes 2. Rennes 1 n'a pas une tradition revendicative et contestataire. C'est pas une fac rebelle, ça c'est sûr. La sociologie, j'ai pas étudié ce sujet de Rennes 1, mais en tout cas effectivement la sociologie étudiante là depuis la massification et donc la pénétration des classes populaires et des classes moyennes basses à Rennes 2, moi ça me paraît un facteur important. Le champ politique est syndical, ça veut dire que même si les organisations sont très faibles aujourd'hui, elles existent toujours et on peut avoir des militants qui peuvent jouer un rôle décisif dans un lancement du mouvement. Je pense effectivement qu'à Rennes 1, à Rennes 2 en tout cas, du fait des disciplines, on a plus d'étudiants disponibles pour ce type de mobilisation qu'en fac d'éco, qu'en fac de droit ou même à Beaulieu dans des sciences dures en l'occurrence.
Alors Hugo Melchior, vous nous rappeliez en commençant cet échange qu'effectivement ça ne s'improvise pas que non. De lancer un tel mouvement. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans la cuisine interne, dans les leviers de la mobilisation qu'il faut absolument maîtriser pour qu'un mouvement de cette ampleur puisse à la fois démarrer et surtout durer ?
Pour un militant, et c'est ce que je fais moi depuis 2006, ça veut dire que je me mets ce que j'appelle moi en mode bolchevique. Ça veut dire militant.
Ah, c'est clair.
Voilà, c'est clair. Ça veut dire militant professionnel, ça veut dire y consacrer tout son temps. Ça veut dire vous subordonner votre quotidien.
Le
jour et la nuit, à votre engagement. C'est-à-dire que vous passez, moi ça fait un mois et demi que je suis, on va dire, dessus.
Donc vous êtes chargé de cours, on l'a rappelé, donc vous ne faites plus cours.
Si, je fais cours.
Quand même.
Mais je mène les deux de front. C'est-à-dire que les étudiants, ils n'ont pas à payer, évidemment, et être pénalisés de quoi que ce soit. Donc je mène les deux de front. Ça me prend énormément de temps, mais ça, j'assume derrière. Il faut, de toute façon, qu'il y ait des militants.
C'est un mode commando aussi, un peu.
Un mode commando, c'est juste que vous y consacrez 20 heures sur 24. Et durant 2006, c'était pareil. Vous êtes obligé à un moment donné d'avoir un engagement qui est exemplaire, et si vous voulez être crédible auprès des étudiants, notamment les nouveaux étudiants, il faut que vous devez montrer l'exemple, et vous êtes jugé aussi par rapport au temps que vous êtes prêt à y consacrer. Donc consacrez beaucoup de temps à cet engagement-là, maîtrisez évidemment le projet de loi, évidemment,
culture, savoir de quoi on parle,
savoir après l'expliquer, donc faire de la pédagogie, l'idée de médiation évidemment. C'est pas de se présenter comme un sachant, mais c'est juste à un moment donné, il y a un projet de loi, voilà comment je l'analyse moi, subjectivement. Comment justement susciter le désir et se rendre désirable et donner envie aux gens de se mobiliser. Et puis après, comment, vous voyez, des militants qui sont au départ très isolés arrivent à agréger des étudiants non organisés. Pour moi, vous voyez, un mouvement bascule en fait dans un mouvement de masse quand ce que fait l'immense majorité des étudiants, c'est-à-dire des gens non organisés et non encartés, s'engagent. Et actuellement, c'est le cas à Rennes 2, dans le comité de mobilisation qui rassemble, je sais pas, 200-300 personnes, l'immense majorité des gens sont des gens non organisés.
Pardon. Alors, les communicants appelleraient ça des éléments de langage. Quels sont les mots que vous avez utilisés et qui ont suscité cette adhésion ? Est-ce qu'il y a des expressions particulières qui, vraiment, on fait tilt, on fait mouche ? Il y a toujours des slogans qui partent et qui portent.
Je pense la dénonciation de l'État PS, du gouvernement socialiste, clairement, par rapport justement à une jeunesse qui avait accumulé du ressentiment et de la déception à son égard, donc qui avait envie d'entendre ça, qu'on mette des mots là-dessus, répondre à la question tout simplement de quoi la réforme du code du travail est-elle le nom, donc parler du néolibéralisme, du capitalisme, ça fait sens, parler de la souffrance au travail, du monde au travail, ça renvoie à des réalités personnelles, familiales, parce que en l'occurrence les étudiants et étudiantes sont pas tous fils de profs, etc. Et la souffrance chez les enseignants elle existe également, donc voilà, parler de trucs très, très conceptuels, parler de l'intime. Je pense qu'il faut réussir, voyez, à articuler les deux. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans la sphère des idées, seulement à un moment donné, il faut parler voilà, de la
de
merde,
l'émotion.
De l'émotion, etc. Mais vraiment, enfin, je veux dire, de l'empirisme, clairement.
Et de l'humain.
Et de l'humain, voilà, et des humains. Oui.
Christian Lebart, une dernière question avant la pause.
Et en même temps, sans me faire l'avocat du diable, c'est un combat extrêmement difficile parce que, comme on disait tout à l'heure, la loi travail, elle ne concerne pas principalement ou pas exclusivement les jeunes. Et par ailleurs, le gouvernement est de gauche, donc a priori, c'est un combat plus difficile à mener que quand la cible est Sarkozy. Donc voilà, ça veut dire aussi qu'il faut, il faut trouver des bons argumentaires.
Tout à fait. Par rapport au CPE, effectivement, au CIP, où c'était un contrat spécifique, au moins 26 ans, donc à la jeunesse, là, le Code du travail, c'est 18 millions de salariés du privé hein, qui sont concernés. Mais derrière ça...
Puis c'est quand même très complexe.
Et c'est très complexe, effectivement. C'est pas, on peut pas expliquer en une
les
fois.
Les étudiants connaissent très mal, je dirais les Français en général, on connaît très très mal le Code du travail.
Enfin, tout à fait. Mais en tout cas, la logique, en tout cas, la provenance en un terrain plus politique, qu'on demande toujours aux mêmes, les mêmes efforts, que ça fait 30 ans qu'on met les mêmes politiques, pro-business, pour reprendre l'expression de Manuel Valls, de l'offre, que les patrons ne peuvent pas embaucher parce qu'ils ont peur d'embaucher, parce que le Code du travail est trop contraignant, parce qu'on peut pas licencier facilement les salariés une fois qu'on les a embauchés. Je crois qu'il y a cette idée-là, à un moment donné, ça fait 30 ans qu'on met les mêmes politiques. C'est intolérable d'un point de vue social, selon moi, d'un point de vue de classe, et en plus c'est inefficace. Voilà, le nombre de chômeurs, à un moment donné, c'est une question de gauche-droite, une question de constat empirique qu'on fait. Et donc, et puis je crois vraiment le fait que pendant, depuis des années, il y avait une telle atonie, une telle léthargie sociale. Là, je vois que les étudiants qui se mobilisent sont heureux de se mobiliser. C'est qu'à un moment donné, effectivement, je sais pas s'ils attendaient une occasion, mais là, moi, ça me réjouit, parce que moi, j'ai 28 ans, c'est mon cinquième mouvement, mais de voir des étudiants et étudiantes dont c'est le premier engagement réel, apprendre l'idée aussi de partager aussi une expérience politique commune, d'exception politique, c'est quelque chose de très enrichissant et de très vivifiant pour moi aussi.
La lutte, c'est de la joie. Eh bien, tout de suite, on fait une petite pause musicale avec les Fatal Picard. Mon père était tellement de gauche.
Ne choisis pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la la la. En urs l'hiver, les pays de l'Est, c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris, ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la la. Fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre. La viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose. On s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland. Le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'International, les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La 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 la, la la. Car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La
C'était tellement de gauche, morceau des Fatal Picard pour poursuivre ce nouveau numéro de Chercheurs en Ville qui s'intéresse aujourd'hui aux mouvements sociaux à l'université Rennes 2. Dans la première partie de l'émission, nous sommes revenus notamment sur l'image de ce campus, Villejean. Les étudiants ont aujourd'hui plus de mal à se mobiliser. La culture politique, quand elle est existante, n'est plus la même qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, les syndicats sont remplacés par des associations ou des mouvements plus éphémères. Des mouvements peut-être aussi plus ouverts à l'image de Nuit Debout dont nous parlerons en deuxième partie. Avant cela, on va aborder la question de la violence. Violence dans les manifestations contre les forces de l'ordre ou même parfois contre les journalistes. Violence parfois à l'origine de l'essoufflement de la contestation d'ailleurs. On retrouve tout de suite notre invité Hugo Melchior, doctorant en histoire à Rennes 2 et un des leaders du mouvement contre le projet de loi travail. Il répond aux questions de Xavier de Montride et Christian Lebar.
Voilà, on retrouve notre invité pour poursuivre cet échange autour de la mobilisation étudiante à Rennes et singulièrement à l'université Rennes 2. On parlera tout à l'heure des violences qui peuvent accompagner ces mouvements, des débordements, et puis aussi de ce phénomène tout à fait intéressant qui semble bien commencer à reprendre à Rennes, la fameuse Nuit Debout. Mais avant cela, Christian Lebart, on va peut-être revenir un instant sur ce que nous disait juste avant la pause notre invité et sur son organisation bolchevique pour préparer les mobilisations étudiantes.
Oui, la question est celle de la politisation des sciences humaines et sociales, en fait. C'est-à-dire comment être à la fois chercheur et militant. On sait que les sciences humaines et sociales ont vécu des décennies d'ambivalence de ce point de vue-là. Hein. Dans la discipline que je connais le moins mal, la science politique, il y avait parfois un mélange des genres entre militantisme et activité scientifique. On a vu beaucoup de chercheurs passer d'un monde à l'autre, comme ça, à partir d'un capital militant fort reconverti en savoir scientifique. Alors comment, il me semble que depuis une décennie, on a quand même plutôt un mouvement de refroidissement post-Bourdieu, un peu de refroidissement des sciences humaines
et
sociales.
Avec Hugo Melchior, ça chauffe encore.
Alors voilà, là, vous incarnez un modèle, de ce point de vue-là, un peu à contre-courant. Comment vous le vivez-vous et comment vous le justifiez ?
Moi, contrairement à Max Weber, je ne crois pas en la neutralité axiologique. J'ai la subjectivité en sciences sociales. De fait, pour moi, elle existe. Et pour moi, elle n'est pas incompatible avec l'idée de rigueur, voilà, de méthode et d'objectivité en termes d'analyse méthodique hein, du passé tel qu'il s'est passé ou tel qu'il s'est le plus probablement passé. Hein, pour mon travail d'historien, ça veut dire croiser les sources, sources orales, sources écrites, pour arriver justement à, non pas construire, mais reconstruire en tout cas, la vérité du passé, en tout cas de rendre compte de cette vérité là. Donc il y a ça, et après effectivement il y a l'engagement militant. Pour moi, encore une fois, c'est pas incompatible. Quand j'écris un article scientifique, j'ai ma casquette de chercheur, ma subjectivité va transparaître nécessairement dans le choix des mots que je vais faire, mais effectivement mes garde-fous c'est la rigueur.
Vous n'avancez pas masqué hein, dans vos travaux.
Non, tout à fait, dans le choix des sujets que je peux faire, mais en tout cas, il y a une discipline qui a ses codes, qui a sa méthode, et je m'y conforme en tout cas, pour être crédible aussi par rapport à ça, et parce que de fait... Et encore une fois, et moi dans mon engagement militant, et bien plus qu'il y a 10 ans, s'il y a bien quelque chose aussi que mon travail en tant qu'historien m'a apporté, c'est l'idée d'honnêteté intellectuelle. Voilà, au même titre que je l'ai dans mes travaux, la rigueur je l'ai aussi dans mon militantisme. Ça veut dire que quand j'écris la loi El Khomri, je veux pas d'exagération, je veux pas d'extrapolation, je veux pas de contre-vérité. J'essaie de me tenir à cette réalité-là aussi. Donc vous voyez, la rigueur de l'historien, je l'ai également dans mon engagement. La rigueur au niveau de la discipline militante, c'est aussi au niveau de qu'est-ce qu'on raconte, comment on le dit, voyez. Donc pour moi, au contraire, pour moi, mon travail d'historien, je le mets au service aussi de mon engagement militant, et ça m'aide justement à avoir ces garde-fous rigoristes, on va dire.
On vous sent très sincère derrière ce micro, Hugo Melchior, mais quel regard vous portez sur la manière dont, très concrètement, j'allais dire très physiquement, les mobilisations et les manifestations se déroulent? Parce que quand même, on assiste depuis quelques semaines à systématiquement les même face à face de plus en plus violent entre forces de l'ordre, effectivement très remontées, et puis en marge des cortèges, des casseurs qui viennent effectivement là pour ça quand même. Tout ça n'est pas très bien tenu, on voit bien qu'à la fin, il y a des exactions qui sont commises, des exaspérations qui montent de part et d'autre. C'est inévitable que ça se passe comme ça.
Par rapport à ça, il faut remonter un petit peu, si je peux me le permettre, à 2006. Il y avait des mobilisations de masse, hein, des manifestations de 10 000 jusqu'à 50 000 personnes, donc les manifestations légales autorisées de la Terre syndicale, qui se passaient bien, qui se passait bien, où ces manifestations pouvaient aller, rue Le Bastard, place de la mairie, il n'y avait aucun problème. Et ensuite, et je vous le dis, parce que là c'est le militant qui parle, hein, et moi je ne me cache pas dans mon petit doigt, on peut avoir un désaccord, mais moi je vous dis, vous voulez que je sois honnête intellectuellement et sincère, je vais vous le dire. Après, avec les camarades en 2006, on avait théorisé ce qu'on appelait la stratégie de l'attention, la stratégie émeutière. Ça veut dire qu'il y a eu le temps de la manifestation de rue, pacifique, légale, à laquelle nous participions et nous faisions tout pour que nous soyons extrêmement nombreux et que la crise numérique ne fasse qu'augmenter avec le temps. Mais ensuite, pour nous, la tension, la conflictualité ne devait pas retomber après la manifestation. D'où notre politique délibérée. Hein.
Revendiquée comme telle et assumée. Que ça parte en vrille.
Et d'aller chercher les forces de l'ordre là où ils étaient à l'époque, en 2006, ça veut dire près du local de l'UMP qui était boulevard de la Liberté. C'est nous qui.
Cristallisions à ce moment-là les points de fixation.
Exactement. Oui. Moi, j'avais été interrogé en 2006, j'avais 18 ans à l'époque, dans un journal, et ça avait été, j'ai même eu le droit à des remontrances de la part de mon bureau, du bureau politique, hein, de la Ligue communiste révolutionnaire, où j'avais dit clairement la question aujourd'hui, c'est pas de est-ce qu'on recourt ou pas à la violence en politique, c'est quel degré de violence on met dans le mouvement. Voilà.
La violence en politique est inévitable de l'action, d'une certaine manière.
En tout cas, pour moi, je ne sais pas si elle est consensuelle ou intrinsèque, en tout cas, dans le répertoire d'action, pour moi, elle en fait partie.
Et ça serait dommage de ne pas s'en servir.
Bon, en tout cas, pour moi, enfin, clairement.
Selon vous, encore.
Moi, je ne suis pas un pacifiste intégral, d'accord ? Au même titre que je considère que la violence seule est impuissante, d'où la nécessité pour moi, et c'est le cas actuellement, d'articuler nombre, massification et radicalité.
Alors, si on va jusqu'au bout, parce que c'est vraiment très intéressant d'avoir cet échange très très clair avec vous là ce matin à ce micro de Canal B, ça veut dire que face à des pillages en règle de magasin, face à des tags qui défigurent des frontispices de mairie, des biens publics et privés, vous applaudissez, non. Vous dites c'est normal, il faut aller jusque là.
Non, pas du tout. Moi, quand je parle de violence en politique, pour moi la violence elle doit être tournée. On peut encore une fois avoir un désaccord là-dessus, et je suis prêt évidemment à en débattre, exclusivement à l'encontre de ce qui est pour moi le bras armé de l'État. C'est-à-dire que moi, les pillages, les dégradations, etc., ça ne m'intéresse pas.
Par contre, casser du flic, ça fait partie du système.
En tout cas, affronter physiquement, assumer un rapport de force direct avec les forces de l'ordre, effectivement, aujourd'hui, on va venir à 2016 et à la mobilisation, pourquoi une telle cristallisation et pourquoi une telle tension ? Contrairement à 2006, là, ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez un centre-ville, un hypercentre qui est bouclé, qui est devenu une citadelle assiégée, en l'occurrence, avec des forces de l'ordre, qui n'est pas en 2006. La manifestation du 9 avril, moi je n'ai jamais vu ça, depuis que je manifeste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez...
En termes de mobilisation policière en face.
En face, effectivement, et le fait qu'à deux reprises, vous avez eu un cortège syndical de gens pacifiques, qui ne sont effectivement pas là pour s'affronter physiquement.
Qui se sont fait gazer.
Qui se sont fait gazer, matraquer. Donc là aujourd'hui, à Rennes, et c'est le cas aussi à Paris et à Nantes, vous avez une répression indifférenciée. Moi, quand je me mets...
Il y a des ordres pour vous penser, pour que ça se passe comme ça ?
Pour dissuader les gens de revenir, je pense, sincèrement. Prendre prétexte, effectivement, qu'il y ait des éléments agités à l'intérieur pour pouvoir frapper de manière indifférenciée, oui, pour moi, il y a un problème. Encore une fois, si je peux me permettre, moi, quand je vais en émeute, me faire réprimer, moi, j'assume. Moi, je prends une prise de risque, j'assume. Je me pose pas en victime, après, si je me fais gazer, m'attraquer. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est de voir des gens pacifiques qui manifestent normalement, se faire matraquer comme si jamais ils étaient eux-mêmes en train de s'affronter.
Donc, il y a une troisième catégorie dont il faut quand même aussi parler à ce micro, et je peux le faire d'autant plus volontiers que je suis co-président du Club de la Presse, ce sont les journalistes, hein, qui sont systématiquement, depuis maintenant quelques semaines, des cibles, voire des boucs émissaires ou des punching balls, dans les manifestations qui se font... Alors, indifféremment, là aussi, hein, côté CRS, des contrôles d'identité très très musclés, côté manifestants, des courses-poursuites, dès qu'on a repéré un représentant de la presse ou des médias, ça se passe pas très bien. Là aussi, on a l'impression que faire notre métier d'informer, de rendre compte, est devenu de plus en plus difficile dans le climat que vous décrivez.
Moi, ça fait 10 ans que je côtoie les journalistes, je suis encore à votre micro aujourd'hui.
Donc on vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Moi, j'ai aucun problème avec les médias, enfin en tout cas avec les journalistes en tant que tels. Par contre, comme eux d'ailleurs...
Vous l'avez constaté ce que je décris, c'est pas une invention.
Et puis ça date pas d'aujourd'hui. Enfin, en l'occurrence,
mais ça s'est quand même accentué.
En tout cas, la question que vous se posez, c'est pourquoi ces violences que je ne justifie pas, hein. Enfin, ce sont mes attaques à l'égard de personnes, de journalistes, etc. Je ne pourrais justifier ça. Après, la question, c'est cette défiance, cette méfiance, d'où elle vient. Moi, j'ai, encore une fois, la subjectivité, vous parliez de l'historien, en journaliste, elle existe également. La neutralité, elle n'existe pas.
Je suis d'accord avec vous.
Et heureusement qu'il y a des journaux d'opinion qui le font. Après, ça ne justifie absolument pas la violence. Moi, quand par exemple, il y a un article qui peut être écrit par un journaliste qui ne me plaît pas, au sens où je ne suis pas d'accord avec, je vais voir la personne et je discute. Et là-dessus, je dis effectivement, tu donnes ton opinion, c'est une chose. Par contre, là, quand tu as rapporté les faits, là, tu as oublié telle chose. Là, il y a des biais pour le coup. Pour moi, ça doit s'arrêter.
Mais
là.
C'est du débat et c'est du débat. Important.
Exactement.
Si on veut être purement, j'allais dire machiavélien, c'est-à-dire vraiment comment faire avancer la cause qui est la vôtre, est-ce que la stratégie d'affrontement telle que vous venez de l'assumer, ce qui est effectivement tout à fait intéressant, est-ce qu'elle n'est pas contre-productive au sens où, de toute façon, vous savez bien que vous ne gagnerez pas
dans
les combats de rue. Donc on sait très bien qu'en réalité, le seul combat qu'on puisse mener dans la situation qui est la vôtre, c'est un combat auprès de l'opinion publique.
Tout à fait.
Or, ce que Patrick Champagne et quelques autres ont montré depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire le vrai lieu de l'affrontement, c'est la sympathie de l'opinion publique. Or, de ce point de vue-là, les choses ont quand même changé. Les CRS, les forces de l'ordre d'une façon générale, ne sont plus regardées comme elles l'étaient dans les années 70.
On les a embrassées après Charlie, mais oui, on a l'impression qu'on les aime un peu moins quand même depuis quelques semaines. C'est la question de Christian.
La question de la désirabilité d'un mouvement, vous avez raison. L'image d'un mouvement, pour moi, c'est important, effectivement. En 2006, on a vu des débats, même au sein du mouvement, la question, est-ce qu'on recourt à la violence? Est-ce qu'on recourt à l'illégalité? Dans quelle mesure? Jusqu'à quand? Donc ces débats-là, ils sont consubstantiels à toute mobilisation. Le répertoire d'action, il existe. On va jusqu'où? Et on met quelles limites? La question du rapport aux forces de l'ordre, moi, ce qui m'intéresse, notamment à Rennes, c'est de voir des gens qui, jusqu'à présent, la répression policière, c'était quelque chose d'assez abscon. Qui pensait que les policiers réagissaient seulement en légitime défense, de manière proportionnée, et qui là, et là on ne parle pas des gauchistes hein, ou des gens...
On parle des témoins.
On parle des témoins, des gens qui sont allés manifester, qui ont vu de leurs yeux vus des gens se faire réprimer, là l'exemple du couple. Dans Ouest-France, là, le couple qui s'est fait agresser.
Tout à fait,
agresser.
Le jeu de couple, là, avec un temps, des interruptions temporaires.
111 jours, qui sont faits, il faut le dire, agresser physiquement, pour moi, c'est une méthode de barbouze, par 4 CRS, parce qu'ils se rendaient à la manifestation. Ça, les gens, ils le voient, et là, ils ont
beau être. Ça laisse des traces.
Et ça laisse des traces dans les consciences. Et là, je vois, parmi les étudiants, des gens qui, pour autant, n'iront pas caillasser des forces de l'ordre, mais par contre, qui resteront pendant l'émeute, pour montrer leur solidarité à l'égard de ceux qui s'affronteront, parce qu'ils diront « j'ai la haine contre les flics, même si je ne connais pas personnellement, mais ce qui représente la fonction sociale de la police et comment ils se comportent à l'égard des manifestants, ça révulse. » Et encore une fois, ça dépasse largement la sphère militante, ultra-gauche, autonome, traditionnelle.
Vous avez vu cette semaine, il y a une polémique naissante avec l'affiche de la CGT qui, oui. Justement, fait polémique avec cette image du CRS, de la flaque de sang et non-violence policière. C'est un ton un peu nouveau aussi, là, ça, de la part d'un syndicat.
Là, vous parlez des syndicats, les 300 intellectuels, universitaires, artistes dans Libération qui ont fait une tribune pour dénoncer les répressions policières en disant qu'un gouvernement qui frappe sa jeunesse, c'est un gouvernement méprisable. Pareil, donc là il y a aussi des propositions par rapport à ça, de l'usage qui est fait des forces de l'ordre pour casser le mouvement, encore une fois pour dissuader. Parce qu'encore une fois, les gens qui assument la stratégie émeutière, ils se font réprimer, ils retourneront manifester. Par contre, c'est tous ceux, et c'est la majorité, c'est la grande majorité de ceux qui veulent manifester pacifiquement, ils ont raison de le faire, moi je ne les connais absolument pas par rapport à ça, qui eux, aujourd'hui, se sentent en insécurité pendant les manifestations.
Alors, Hugo Melchior, vous qui êtes à la fois historien, doctorant à Rennes 2, acteur de premier plan de ces mobilisations dans la durée depuis une dizaine d'années sur Rennes 2, est-ce que vous constatez, justement, par rapport à cette opinion publique, une forme de basculement Christian Lebart, à l'instant, évoquait le capital de sympathie plus ou moins grand que l'opinion publique peut avoir à l'égard de ces mouvements lorsqu'ils s'accompagnent de violences. Est-ce que là, vous avez l'impression qu'on est sur une ligne de crête et que ça pourrait basculer dans un sens ou dans un autre?
À qui profite la violence, pour le dire d'une autre façon?
Encore une fois, je pense que, étant donné la sociologie rennaise, je ne sais pas, je ne pense pas que les violences qui est...
Est-ce qu'il faut un mort? Vous avez cité deux personnalités, deux emblèmes, j'allais dire, deux icônes.
Est-ce qu'il faut un martyr?
Est-ce qu'il faut un martyr? Malik Oussekine en 86, Rémi Fraisse il y a 2 ans à Sivens. Est-ce qu'il faudrait que le mouvement actuel est aussi son martyr ?
La question, c'est que, encore une fois, je ne le souhaite pas parce que je souhaite la mort de personne.
Par Est-ce contre, qu'il y a un risque qu'il y en ait ?
Il y a un risque qu'il y en ait, hein, ça c'est sûr. Il y a un risque qu'il y en ait. On verra, si on se revoit, on pourra en parler, on pourra faire le bilan. Moi, je crains beaucoup pour le
28 avril.
Bien sûr, moi, je crains beaucoup ça. Parce que de fait, il y aura le même dispositif policier. Les syndicats ont pris leurs responsabilités à juste titre pour que la manifestation se passe de manière plus éloignée dans le centre-ville.
Ils ont annoncé un tracé, voilà, effectivement, tracé qui contourne
voilà.
Le centre historique.
Voilà, donc on sera toujours au niveau de République, mais de l'autre côté, donc il n'y aura pas une proximité aussi importante comme le 9 avril, donc ça c'est très bien. Parce qu'encore une fois, moi, la sécurité des personnes, des gens qui manifestent, pour moi, elle est importante. Par contre, encore une fois, et je peux ce qui se passera à nouveau, parce que le bouclage de l'hypercentre, c'est très violent symboliquement. C'est, encore une fois, c'est inédit. Hein. Enfin, je veux dire, en 2006, il y avait des émeutes toutes les semaines. Le village autogéré, pendant 15 jours, il a pu avoir lieu au palais du Parlement sans problème. Les manifestations légales et autorisées se faisaient dans le centre-ville. Là, il y a un bouclage par la mairie et par la préfecture en prétextant la sauvegarde du patrimoine culturel rennais, comme si on souhaitait incendier l'opéra ou le Parlement, etc.
On sait qu'il y a des risques. On sait qu'on est quand même sur un urbanisme à la fois ancien, fragile.
Moi, je pense que, après une fois, on peut avoir évidemment un désaccord là-dessus. Moi, je pense que derrière,
c'est un argument qu'on peut entendre. On peut ne pas être d'accord, mais on peut l'entendre.
On peut l'entendre. Mais je pense que derrière, il y a ça véhicule une certaine image de la ville.
Sanctuaire de la bourgeoisie,
voilà,
du commerce.
De la métropolisation. Et pour moi, c'est très révélateur. En tout cas, c'est vécu très violemment par les jeunes, et encore une fois, pas par les militants, mais par des étudiants et
à qui l'on interdit un accès, devrait être un espace public.
Tout à fait. Et le fait de pouvoir manifester pacifiquement et légalement, qu'on leur dise, vous n'avez pas de place ici, vous êtes persona non grata, ça génère de la frustration.
Violence symbolique, dites-vous.
Violence symbolique, là, à ce niveau-là. Et c'est comme ça que c'est ressenti, je pense, et d'où la volonté à chaque manifestation de se rapprocher et d'assumer la confrontation violente avec les forces de l'ordre.
Donc ça va se reproduire comme ça, forcément, le 28,
moi,
c'est
je pense,
ce que vous nous
dites. Tout à fait.
On va suivre ça avec intérêt, peut-être un petit peu aussi d'inquiétude. Il y a un point sur lequel j'aimerais que nous venions maintenant dans le cadre de cet échange, ce sont les rassemblements autour de la Nuit Debout, puisque c'est ainsi qu'elle se nomme. Alors, ce n'est pas né à Rennes, hein, c'est parti de la place de la République à Paris, et à Rennes, eh bien, il semblerait que sur l'esplanade Charles de Gaulle, il y ait une petite effervescence. Alors, au début, il y a eu un phénomène de curiosité, il y a eu jusqu'à 1200 personnes, je crois, et puis là, ça s'est quand même sacrément un petit peu refroidi
assez, ouais.
Et tassé. Quel regard portez-vous là-dessus, sur ce qui s'y passe, ou pas d'ailleurs ?
Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est le creuset de rencontres entre deux gens qui d'ordinaire ne peuvent pas se côtoyer ou ne se côtoient pas. Donc c'est ça qui m'intéresse. En gros, c'est une remise en cause de la division sociale du travail, et ça, c'est intéressant de voir des
étudiants. Et de l'espace public aussi.
L'espace public. Et la réoccupation de la séparation spatiale également entre des gens qui d'ordinaire ne se côtoient pas et qui là peuvent se réunir, même si temporairement, dans un même espace pour parler politique, pour construire des énoncés. Donc ça, c'est très très bien. L'idée vraiment de rencontres, de lieux d'échange, c'est très très bien. Par contre, c'est un mouvement qui est, pour l'instant, c'est un constat, hein, extrêmement minoritaire. Hein. C'est, là, on compare avec le mouvement des indignés en Espagne. En Espagne, c'était des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui se rassemblaient. On n'est pas non plus comme Place Tahrir, ou même en Grèce, ou même en Turquie. On n'est absolument pas là, ça reste extrêmement marginal d'un point de vue numérique. Là-dessus, on ne va pas se mentir. Moi, j'y vais de temps en temps. Il n'y a pas 15
000. Il
n'y a pas foule. Donc voilà. Et, c'est un peu et même s'il peut y avoir un turnover relatif, bon, globalement.
C'est un peu tout le temps le même, quand même.
Voilà, qui reste là. Et première limite, donc c'est ça, donc le nombre pour l'instant. Donc est-ce que ça peut se massifier? La sociologie aussi. Là, c'est Frédéric Lardon qui disait qu'à un moment donné, il ne faut pas que ce soit juste des étudiants ou des blancs, etc. Mais les quartiers populaires, la jeunesse populaire,
pas
est-ce qu'elle
présent,
vient
hein.
Est-ce que le Triangle, est-ce que le Blône, est-ce que Bréquigny, est-ce que Villejean, ils vont venir aussi à un moment donné? Ils ont envie de venir. Comment rendre ça, vous voyez, à nouveau désirable et donner envie aux gens de venir? Ce n'est pas toujours les mêmes et pas aussi, vous voyez, que ça typé socialement. Et enfin, dernière limite que je vois, c'est la dérive en forum de discussion. De palabres, la palabre, la palabre, on discute, on échange, on refait le monde, on peint des tableaux plus utopiques les uns que les autres. C'est bien, ça permet de libérer la parole, mais pour moi, si jamais c'est pas adossé à des modes d'action, et comment est-ce qu'en gros ça peut être un point d'appui pour le mouvement contre la loi travail? C'est juste se réunir et refaire le monde tous les soirs pour parce que enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, caractère parce qu'il y a rien à la télé ou parce que
c'est le café du commerce.
Voilà, moi ça m'intéresse pas et ce sentiment là, encore une fois, je dis, j'ai été plusieurs fois, je veux pas jeter l'opprobre sur ce qui se passe, mais ce sentiment là, il y a pas mal d'étudiants engagés contre la loi travail qui le ressentent et qui de fait hésitent à s'investir et à consacrer du temps là de ça. Moi, je suis content que ça existe, c'est bien. Après, moi, je peux pas être partout, mais en tout cas, faut pas que
c'est
ce
pas
soit...
votre priorité.
Non, je vous dis clairement.
Christian Lebart, sur ce mouvement-là de la Nuit Debout, le regard du politologue, du sociologue que vous êtes, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous y voyez?
Bah, effectivement, je comprends que du point de vue du Hugo Melchior, c'est un mouvement qui ne met pas en avant l'action, hein, qui privilégie effectivement quelque chose d'un peu interstitiel, d'un peu étrange, d'un peu dissonant au regard des canons de la démocratie participative ou même de la démocratie tout court, qui est que voilà, le palabre, le forum, la discussion serait à elle-même sa propre finalité, et à soi seul, ça pourrait faire bouger des choses, ce qui n'est pas non plus une hypothèse absurde.
Il y a un petit côté concours d'éloquence sur fond d'alcool qui est parfois un peu troublant. Mais
et
bon.
Puis il y a surtout, alors on parlait de la bataille de l'opinion publique, enfin l'incident extrêmement grave de mon point de vue, enfin de ce qui s'est passé avec Alain Finkielkraut.
Je voulais en parler, alors on rappelle les faits,
voilà,
Christian Lebart.
Bah, tout simplement,
il est venu et puis ça l'a pas
il vient en voisin écouter, observer, etc. Il est reconnu et il est insulté, molesté,
exfiltré, c'est dehors, sa place n'est pas là.
Donc effectivement, et on ne peut que partager son indignation. Ces choses-là sont tout à fait scandaleuses. Alors du coup, ça, voilà, c'est aussi ça probablement la limite de ce type de mouvement. C'est pas tellement que ça ne débouche sur rien, parce que je pense que la parole, le débat, à lui tout seul, à sa finalité. Je pense aux assemblées générales.
Enfin,
voilà. C'est aussi comme ça qu'on conscientise les militants si on veut s'inscrire dans la perspective militante. Mais voilà, le problème, c'est qu'à partir du moment où on refuse toute structuration, il y a le risque d'une espèce de n'importe quoi. Là.
C'est la version, vous savez, des veilleurs de la manif pour tous, mais c'est la version gauchiste. Hein. Dans 2-3 ans, ils seront tous intermittents du spectacle, mais pour l'instant, c'est des révoltés.
Une petite mise en perspective, si vous me le permettez, justement, Hugo Melchior, par rapport à ce mouvement Nuit Debout, ici singulièrement à Rennes, on est dans une ville qui, depuis quelques années maintenant, encourage la démocratie dite participative. Il y a des fabriques de tout, des fabriques citoyennes pour inventer le Rennes de 2030, pour évoquer la vie culturelle, etc. etc. Et en même temps, on s'aperçoit que ça marche pas forcément si bien que ça, et il n'y a pas d'appétit finalement. On pourrait penser que dans une ville comme celle-ci, Nuit Debout aurait fait carton plein. Pas tellement. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce décalage, peut-être entre une volonté, j'allais dire, politique locale, d'instrumentaliser l'expression citoyenne, et puis la réalité de la manière dont ça se passe?
Alors ça, vous me prenez un peu au dépourvu. J'avoue, encore une fois, que j'ai pas fait d'enquête pour essayer de comprendre pourquoi effectivement.
Est-ce que c'est une question qui vous paraît justement pertinente au regard de la sociologie de la ville et du discours politique qui est fabriqué localement?
Oui, effectivement, il y aurait peut-être que.
Mais Christian a peut-être des choses à dire aussi là-dessus.
Ouais. Oui, alors il me semble qu'on parle pas de la même chose. C'est-à-dire que quand la ville met en place des dispositifs de démocratie participative, très clairement, elle s'adresse à ses habitants, c'est-à-dire aux gens. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le centre-ville, sur l'appropriation du centre-ville et sur le fait que les étudiants, on parle parfois de Rennes 2 comme d'une réserve d'Indiens. Hein. Voilà, les étudiants venant dans le centre-ville en sont chassés. Là, il y a des choses symboliquement très lourdes. Donc, je pense que la démocratie participative telle qu'elle se met en place aujourd'hui, elle s'adresse principalement, je dirais, aux gens établis. Je dirais pas la bourgeoisie, mais voilà les
ceux qui maîtrisent les codes,
ceux qui ont les codes et ceux qui sont installés à Rennes. Or, une des caractéristiques de la population étudiante, ce qui en fait l'intérêt hein, par rapport au sujet dont on parle, c'est aussi un rapport au territoire beaucoup plus flottant. Ce que les étudiants
élastique.
Ont envie, ce dont ils parlent en AG, c'est pas des services publics de la ville de Rennes. Ils parlent du néo-capitalisme, ils parlent du monde du travail, ils parlent de la géopolitique, ils parlent...
Ça pourrait être ici ou ailleurs.
Ils parlent du monde dans lequel ils se projettent pas sur Rennes, ils s'en foutent de ce qu'on va faire à Rennes dans les 10 ans qui viennent. Ils interrogent le monde dans lequel ils sont. Donc je pense qu'il y a un décalage.
Aussi parce qu'en tant qu'étudiants, et beaucoup ne sont pas Rennes-Rennais, ils sont de passage. Donc Rennes, c'est un an, deux ans, trois ans, c'est une étape dans leur vie. Donc voilà, et même des Renault-Rennais après leur bac, ils partent également. Donc effectivement, à quoi ressemblera Rennes en 2030
c'est pas la question.
Pas la question. Après, malgré tout, l'action par exemple de la métropolisation, quand même qui se pose. Le couvent des Jacobins qui a pu citer aussi des réactions. Donc il y a une fraction quand même qui s'y intéresse, mais globalement, on est à la fac pour 2, 3, 4, 5 ans, et après notre avenir, il se fera à son ailleurs, à Paris, en province, ailleurs. Donc quand je dis que je suis à Rennes depuis 28 ans, les gens me regardent en me disant bon. c'est quand est-ce que tu pars, parce que 3-4 ans ça suffit déjà, même si je pense malgré tout que les Rennais et que les étudiants Rennais sont attachés à cette ville là et au bien-être qu'ils peuvent ressentir, et là actuellement à l'aspect très, très politique de ce qui se passe.
Alors justement, puisque vous évoquez une question personnelle qui vous était posée, j'ai envie d'en vous poser une aussi à mon tour, Hugo Melchior. Comment voyez-vous votre avenir? Est-ce que vous allez continuer d'être un historien avec la rigueur revendiquée, avec la dose de subjectivité que vous revendiquez également et qui est tout à fait compréhensible au regard de votre parcours de militant? Est-ce que vous allez avoir envie d'aller plus loin et j'allais dire de faire de la politique et de vous engager, y compris dans des processus électoraux, ici ou ailleurs? Qu'est-ce que vous nous dites à ça?
D'un point de vue professionnel, on me demande souvent est-ce que tu veux être maître de conférence, enseignant-chercheur. Je leur dis, il y a une réalité, c'est que la porte du bonheur, elle est très étroite. Il y a une pénurie d'emplois à la fac, en histoire, lorsque vous avez un poste de maître de conf qui se libère, vous avez 100 personnes qui postulent, dont certains ont des CV, voilà. Donc moi, je ne pense pas être assez concurrentiel et compétitif, on va dire, sur le marché pour pouvoir prétendre à ça. Donc j'ai pas cette ambition, non parce que c'est pas une fausse modestie de dire ça, c'est juste aussi un principe de réalité. Et la difficulté aujourd'hui pour des jeunes doctorants et docteurs de pouvoir s'insérer dans le monde de la recherche. Donc si j'avais dit autre chose, je pense que vous m'auriez dit, écoutez, oui c'est bien, mais concrètement, vous voyez bien le nombre de postes, vous voyez bien le nombre de gens qui aujourd'hui passent des thèses et la difficulté de pouvoir s'insérer là-dedans. Donc non, moi je pense que plus simplement, une fois que ma thèse sera terminée, j'ai passé le concours de l'enseignement, enseigné l'histoire géo, dans le secondaire, je ferai de la recherche à côté, éventuellement, si jamais je continue et que ça continue à me passionner.
Et l'autre partie de ma question.
Sur le plan politique, moi je suis un militant politique ordinaire,
Vous appartenez à quelle organisation, les PMI?
Donc historiquement, moi j'ai une famille en tout cas de tradition politique. Mon père il est au PCMLF dans les années 70 à l'Humanité Rouge au Mans. Ma mère également l'a milité un petit peu.
Tombé dedans quand vous étiez petit,
voilà,
quand même.
Voilà, exactement. Donc la politique, l'histoire, ça a structuré mon éducation. À la socialisation primaire, j'étais dedans les premières manifs avec mon père, tout ça. Donc je connais ça. Je connais ce monde-là. Les réunions même de la direction de ville de la Ligue chez ma mère et mon père quand j'étais au collège.
Clairement, gauche, voilà. Extrême gauche.
Ouais. Extrême gauche. Marxiste révolutionnaire. Je connais ça, tout ça. Les livres. La bibliothèque de mon père, etc., capital culturel, social, assez important. Donc ça, moi j'adhère à la Ligue communiste révolutionnaire, à la section jeune en septembre 2005. Donc quand je commence avec le CPE, je suis pas syndicaliste étudiant, par contre je suis déjà militant marxiste révolutionnaire à la Ligue communiste révolutionnaire. Je reste jusqu'en 2009. J'adhère pas au NPA et j'ai passé un an au parti de gauche. Et là depuis un an, je suis ensemble. Je suis ensemble. La troisième composante de ce qu'on appelait encore il y a quelque temps le front de gauche, qui aujourd'hui n'existe plus. Donc pour répondre à votre question. Vivre pour et par la politique, non. Je respecte tout à fait des gens qui assument des fonctions électives. Moi, j'ai mon ancienne amie qui, elle, voudrait être conseillère municipale à Fougères. Là, aujourd'hui, c'est pas dans mes ambitions. Mais si un jour je dois assumer un mandat local, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect, d'admiration. En tout cas, je suis tout à fait respectable. Et moi, mon amie, je suis en contrat à moi, on va dire. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la politique locale, très très locale. Et elle, pour elle,
c'est là que les choses se passent.
Voilà, qu'on veut vraiment changer la vie des gens au quotidien. Et donc, un rêve, c'est d'être conseillère municipale à Fougères.
C'est pas le vôtre, visiblement.
En tout cas, à court terme, non. Mais encore une fois, si un jour j'ai envie, pourquoi pas, je me l'interdis pas, en tout cas.
Bien, on suivra avec intérêt la suite. Et puis, avant tout cela, dans les tout prochains jours, puisqu'il y a encore des rendez-vous qui sont inscrits à l'agenda de la mobilisation étudiante et plus largement que cela, toujours autour de cette fameuse loi travail, avec le rendez-vous très attendu et peut-être redouté par certains du 28 avril. En tout cas, merci beaucoup,
merci
Hugo Melchior,
d'avoir répondu
à nos questions, d'avoir répondu à l'invitation de Chercheurs en Ville. Et c'est donc la fin de cette émission déjà. Très bonne suite de programme sur Canal B.
Chercheurs en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne et la Radio Université Bretagne Noire.